Bonjour Henri Guénaud.
Bonjour.
François Hollande hésite à recevoir Vladimir Poutine le 19 octobre prochain à Paris en raison de ce qui se passe à Alep. Que feriez-vous à sa place ?
Alors, ce qui se passe à Alep est effectivement dramatique, mais cette gesticulation est ridicule. D'abord, on ne peut pas traiter la Russie de cette façon. Deuxièmement, on ne peut pas résoudre les problèmes sans discuter avec ceux qui ont les clés de la solution. C'est totalement absurde, c'est presque ridicule.
Il y aurait des crimes de guerre imputables à la Russie et à la France. Ça ne serait pas un motif pour ajourner cette visite ?
Mais le problème, c'est pas aujourd'hui de condamner ou d'envoyer devant je ne sais quel tribunal le chef de l'État russe. C'est d'arrêter les massacres et de détruire l'État islamique par tous les moyens. Parce que à force de tergiverser sur cette question, à force de se demander si le régime syrien est bien convenable ou si les Russes se comportent bien en Syrie, on a fini par oublier que notre ennemi principal, c'était l'État islamique, et qu'à force de tergiverser, la guerre était en train de pénétrer sur notre territoire, en Europe, en France, et que des Français, par dizaines, mourait sous les balles de ces cinglés. Voilà,
donc la
priorité doit être d'abattre l'État islamique.
Et il faut le faire aux côtés du régime syrien et aux côtés de la Russie.
Écoutez, moi j'ai souvenir, on me dira que c'est pas du tout la même chose, pas la même époque, j'ai souvenir que Churchill, le plus anticommuniste des chefs d'État européens, le général de Gaulle et même Roosevelt sont allés serrer la main à Staline parce que l'objectif prioritaire était d'abattre Hitler. Alors je pense qu'en termes de crimes contre l'humanité, Staline n'a rien à envier ni au gouvernement russe aujourd'hui, ni au gouvernement syrien. Tout ça est absurde. Enfin, on ne discute pas avec la Russie, puis demain on ne discutera pas avec les États-Unis non plus, ou avec la Chine. Enfin, tout ça n'a pas de sens.
Donc il faut recevoir Poutine.
Et bien sûr, il faut recevoir Poutine et il faut discuter. En tout cas, il ne faut pas traiter la Russie par le mépris. Voilà, la Russie, c'est le plus grand pays de notre continent. La Russie, elle a un poids géopolitique considérable. Et toutes les politiques qu'on mène vis-à-vis de la Russie depuis quelques années sont absurdes et suicidaires. Voilà. Essayer d'encercler la Russie, essayer de contenir la Russie, comme on l'a fait, essayer de détacher le plus de pays autour de la Russie pour les intégrer dans l'OTAN ou dans l'Europe, ça, c'est un crime contre la paix. Voilà.
Les policiers sont sous le choc, les syndicats de policiers le disent après ce qui s'est passé dans l'Essonne. Deux véhicules de police attaqués au cocktail Molotov, deux policiers grièvement blessés dont l'un est dans un état critique. Vous êtes, Henri Guénaud, candidat à la présidence de la République. Quelle serait votre réponse à ce type de comportement, à cette forme d'ultra-violence ?
Bon, on a beaucoup trop cédé devant la violence. Alors, il y a beaucoup de causes profondes. On peut pas éduquer les enfants sans sanction. On peut pas imaginer que laisser l'école à la dérive comme on le fait penser qu'on va à la fin avoir des adolescents ou des adultes socialisés qui ont intégré les normes sociales, la possibilité de vivre en commun, les règles et les obligations d'un citoyen. Mais il y a autre chose. On a laissé un certain nombre de quartiers à la dérive. On dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit, mais enfin, tout ça est une bêtise absolue. Pardon, il suffit d'aller s'y promener, mais pas avec 50 ou 100 policiers autour de soi, mais tout seul.
C'est ce que disent les syndicats de policiers.
Mais oui, mais moi, j'en ai visité beaucoup de ces quartiers. Pas tout seul, hein, mais je n'y serais pas allé. Et personne n'irait sans être protégé par des forces de police assez considérables.
Sauf ceux
qui sont contraints
d'y habiter. Faut aller
à la Grande Borne, il faut voir. Voilà. Donc ceux qui habitent, ça pourrit la vie de ceux qui y habitent. Et maintenant, on est passé à un stade supérieur, c'est-à-dire que maintenant, on s'en prend directement à l'autorité de l'État. On n'hésite plus à essayer de tuer les policiers. Tuer les policiers, c'est attaquer l'État. Et donc, le jour où il n'y a plus d'autorité de l'État, eh bien, il n'y a plus de sécurité publique, il n'y a plus de paix civile.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut assouplir les conditions, règles de la légitime défense,
d'abord,
par exemple, pour les policiers.
D'abord, oui, les règles de la légitime défense pour la police sont devenues inacceptables. Même les gendarmes ont des règles d'engagement du feu bien plus souples. On peut pas, j'écoutais un syndicaliste de la police qui le disait très bien, on peut pas avoir les mêmes règles de légitime défense pour un policier et pour un citoyen ordinaire. Voilà. Les gens qui ont attaqué les policiers sont des tueurs. Des tueurs. Voilà. Bien, des tueurs. Face à des tueurs, on riposte. On laisse pas mettre en danger à ce point la vie des policiers, quoi. On cherche à les brûler vifs dans leur voiture. Mais qui peut accepter ça? Comment peut-on imaginer qu'une société puisse fonctionner sur ses bases, en laissant faire ce genre de choses? Ça, c'est la première chose. Les policiers ont le droit de se défendre. J'allais même dire, ils ont le devoir de se défendre. Et le devoir du législateur, le devoir de la justice, le devoir du gouvernement, c'est de leur permettre de se défendre. Quel qu'en soit le coût pour les tueurs, premièrement. Ça fait des années qu'on en parle, on n'a toujours rien fait de sérieux. Deuxièmement, la justice. La justice, elle doit être d'une sévérité exemplaire. Et pour cela, il faut sans doute que le législateur aussi durcisse les peines et les sanctions contre les tueurs. Bon, les tueurs de policiers. Mais les gens qui veulent tuer des policiers, les gens qui veulent faire brûler vifs des policiers dans leur voiture, ils doivent être retirés de la circulation pour toujours. Voilà, pour toujours. Et il faut que tous les apprentis tueurs, tous ceux qui auraient des velléités le sachent.
Perpétuité réelle.
Voilà, perpétuité réelle, qu'ils sachent ce qu'ils risquent. Voilà. Et puis il faut, sur ces sujets-là, abaisser sans doute la majorité pénale. Toute personne qui veut brûler vif un policier dans une voiture, qui veut tuer un policier ou un gendarme, c'est toutes ces personnes-là, au fond, quel que soit leur âge, doivent être punies avec une sévérité absolue. Sinon, il n'y a plus de vie en société possible.
Alors, il nous reste à peu près 2 minutes pour parler d'un livre de 500 pages, plus de 500 pages que vous publiez, ça va être court, aux éditions Edith Jacob, qui s'intitule « En finir avec l'économie du sacrifice ». Ce que vous visez, Henri Guénaud, c'est l'économie punitive, l'économie obsédée par la dette, par les déficits, étrangère aux réalités humaines.
Alors, premièrement, ce que je vis, c'est ce sont les politiques économiques qui n'ont jamais d'autre solution pour rétablir une situation économique que de faire souffrir les gens. Hein, vous savez, c'est le salut économique par la souffrance. Voilà, c'est cette idée totalement absurde, économiquement et moralement insupportable, qui consiste à dire aux gens, aux Français aujourd'hui, vous avez trop bien vécu depuis 40 ans, et maintenant, si vous voulez qu'on sorte des difficultés dans lesquelles nous sommes, il faut que vous vous sacrifiez. Bon, en général, ceux qui disent ça, d'ailleurs, ne se sont jamais sacrifiés et ne se sacrifieront pas. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous vivons sur des représentations de l'économie qui nous conduisent à ces politiques. Ces représentations de l'économie, elles consistent non pas à se servir de la théorie économique pour essayer de mieux comprendre la réalité, mais elles consistent à essayer de faire rentrer la réalité dans les modèles économiques. Ça s'appelle de l'idéologie, ça s'appelle plus de la science économique, ça s'appelle plus de la science tout court, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur la complexité humaine, la complexité sociale, des sociétés. Derrière, vous savez, derrière l'image du marché du travail, de n'importe quel marché ou des marchés financiers, derrière il y a des vies. Derrière, il y a des gens qui souffrent, des gens qui ont des peines, des gens qui ont des difficultés, et on ne s'en occupe plus du tout. Et puis enfin, on vit comme s'il n'y avait jamais de... si le temps ne comptait pas, s'il n'y avait pas de transition, s'il n'y avait pas de... voilà, donc on ne gère plus. On dit, je fais ma réforme, et voilà sur quoi elle va déboucher. On oublie une chose, c'est que si elle n'est pas faite dans de bonnes conditions, si on ne tient pas compte de la situation, de la psychologie, de l'état d'esprit, ou des souffrances des gens, eh bien, la politique qu'on fait ne mènera pas forcément là où on croit, mais peut-être tout à fait ailleurs. C'est ce qui se passe depuis 40 ans. Donc, arrêtons avec cette politique qui est dictée par des gens qui ont trop bien appris à l'école des doctrines. Voilà, vous savez, c'est une... J'ai repris une
très
formule.
Vite.
Voilà, ouais. Une formule du grand historien Marc Bloch, ouais, qui dit à propos de 1940, dans son merveilleux bouquin qui s'appelle L'étrange défaite, écrit dans la clandestinité, il dit... Les bons élèves appliquent les doctrines trop bien apprises. Hélas, en 1940, ils sont tous au poste de responsabilité.
Merci Henri Guénaud.